Et ce soir, le journal est présenté par Oana Favennec. Bonsoir Oana.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous. Le président de la République répare un oubli et annonce à Toulon 160 millions d'euros pour les aides à domicile, une prime Covid. Les syndicats de la profession demandent une revalorisation plus globale des salaires. Le couperet est tombé pour France O et France 4, mais avec un sursis d'un an. La ministre de la Culture a confirmé que les deux chaînes allaient s'éteindre. Éclairage dans ce journal. Une vingtaine d'entraîneurs de patinage artistique visés par un rapport de l'inspection générale du ministère. 6 mois après les révélations d'anciennes patineuses, harcèlement, agression sexuelle et viol et une omerta entretenue par la Fédération des sports de glace. Et pour débuter ce journal, des images impressionnantes nous parviennent de Beyrouth. La capitale libanaise a été frappée tout à l'heure par 2 fortes explosions. La première dans la zone du port qui abrite des entrepôts. La déflagration a été ressentie dans plusieurs quartiers de la ville et elle a détruit des vitres et fait des dizaines de blessés selon l'AFP. Emmanuel Macron promet 160 millions d'euros pour les aides à domicile, profession oubliée de la prime Covid. L'État participera à hauteur de 80 millions, les départements financeront l'autre moitié. Annonce réalisée à Toulon lors d'un déplacement du président à une 40 kilomètres de son lieu de vacances, le fort de Brégançon. Emmanuel Macron a rencontré une dame âgée chez elle et aussi des aides à domicile, Julie-Marie Lecomte.
L'usure, l'envie qui s'effrite, la petite paye, le temps partiel, Françoise Chapeau encadre les 46 aides à domicile du CCS de Toulon, le Centre communal d'action sociale. C'est tout cela qu'elle a voulu faire comprendre au président de la République.
Les aides à domicile s'épuisent en fait et il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont dévouées et qui aiment leur métier.
Pendant le confinement, Brigitte, par exemple, a continué de travailler exactement comme elle le fait depuis 38 ans.
Le soir, tout le monde applaudissait les aides-soignants, les infirmiers. Mais nous, pourtant, on était sur le terrain. Et heureusement qu'on était là parce que la plupart des personnes étaient seules, puisque les familles ne pouvaient plus leur rendre visite. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir une reconnaissance du métier, parce qu'on n'est pas reconnu.
C'est donc cette reconnaissance qu'Emmanuel Macron est venu enfin apporter.
Vous avez été au rendez-vous de cette période qu'on a vécue, hein, du pic, et vous avez permis à beaucoup de personnes âgées de rester chez elles et d'éviter l'isolement qu'il y a pu y avoir aussi en établissement. C'est vrai, vous avez raison, cette fameuse prime Covid qui a été donnée au médical, au médico-social, aux établissements, les grands oubliés étaient justement les personnels soignants à domicile et les accompagnants.
L'oubli est réparé, mais à la rentrée, c'est sur une revalorisation salariale globale qu'il va falloir négocier.
Plus généralement, le secteur des aides à domicile peine à recruter. En témoigne le nombre d'offres d'emploi, souvent à temps partiel, non pourvues. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un métier peu attractif qui aurait bien besoin d'être revalorisé.
Oui, 1/5 des postes sont vacants dans l'aide à domicile. C'est un secteur très fragmenté. Et le SINERPA, le syndicat qui représente majoritairement les EHPAD, mais aussi ses employés qui se rendent chez les seniors, se dit vraiment soulagé de voir enfin leur travail reconnu. Florence Arnaise-Maumet du SINERPA rappelle que ni le gouvernement ni les collectivités locales ne voulaient mettre la main à la poche.
Depuis un mois et demi, c'était un renvoi de balles entre l'État et l'ADF. L'État disant les services d'aide à domicile, c'est au département de gérer, donc c'est à eux de payer. Et les départements disant, oui, mais c'est une crise nationale, donc l'État doit payer également. Voilà, donc c'est vraiment une annonce que nous attendions avec énormément d'impatience. C'était le secteur qui avait été totalement oublié en post-crise. Maintenant, quand on gratte un peu, on nous dit que c'est 320 000 salariés dans ce secteur pour donc 160 millions d'euros. Donc on va être sur une prime beaucoup plus faible.
Et ça donne 500 euros par prime si on fait la division, montant beaucoup plus faible effectivement que pour les EHPAD notamment qui se sont partagés pour un même nombre de salariés 450 millions d'euros et non pas 160. Cela dit, le combat continue. La loi Grand Âge prévue cet automne réformera aussi l'aide à domicile, un secteur pour l'instant déficitaire et qui nécessite d'être profondément repensé.
Tara Schlegel. La mairie de Paris attend toujours que l'État prenne des mesures pour imposer de de porter un masque dans la capitale. Dans certains lieux extérieurs comme les marchés ou les quais très fréquentés, Anne Hidalgo a fait une demande officielle aujourd'hui auprès de la préfecture de police de Paris. Le port du masque en extérieur préconisé d'ailleurs par le conseil scientifique dans son dernier avis. L'équilibre est fragile, nous pouvons basculer à tout moment, constate-t-il. Le document 42 pages intitulé « Se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l'automne » revient sur les mesures à prendre et les scénarios envisageables. Une deuxième vague est donc évoquée pour l'automne, voire l'hiver. Le conseil scientifique plaide également une nouvelle fois pour la mise en place d'un comité de liaison citoyenne qui permettrait un dialogue avec la société civile sur les décisions à prendre en cas de nouvelle vague. Des décisions politiques et sociétales bien plus que sanitaires, explique le conseil. L'analyse d'Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à l'université Paris 8.
Enfin, on pose véritablement la question en plus haut lieu. Depuis déjà plusieurs mois, nous sommes confrontés à une crise majeure. On sait bien que les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur les mesures à prendre, l'ampleur de la pandémie. Et puis, on sait bien aussi qu'il y a des balances à faire entre, d'un côté, la protection de la santé publique, de l'autre côté, les libertés individuelles, de l'autre côté, les questions économiques, et que du coup, il s'agit d'un choix politique auquel il faut associer les citoyens.
Et alors, quelle forme cette structure pourrait-elle prendre, selon vous ?
Il y a plusieurs possibilités. De toute façon, il faudrait un débat public large pour que l'ensemble de la population puisse être associée et ne pas subir simplement passivement des positions, des demandes, des commandements, des lois, disons paternalistes de la part du gouvernement ou des recommandations du conseil scientifique. Nous avons vu que l'un des problèmes de la France par rapport à un pays fédéral comme l'Allemagne ou même par rapport à un pays quasi fédéral comme l'Espagne était d'avoir pris des décisions nationalement en les appliquant dans un premier temps de façon uniforme dans l'ensemble du pays, ce qui était absurde car la pandémie ne frappait pas toutes les régions de la même manière. Il serait donc important effectivement qu'il puisse y avoir une véritable régionalisation de telles structures.
Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à l'université Paris 8, répondait à Sophie Delpont. Il y a 6 mois, le monde du patinage était fissuré par de nombreux témoignages de patineuses, des viols, des agressions racontées parfois des années après. Et aujourd'hui, les conclusions de l'inspection générale du ministère ont été rendues. Elles sont accablantes pour la Fédération des sports de glace qui aurait favorisé une forme d'omerta. Le rapport sera transmis à la justice, Jérôme Cadet.
Premier renseignement de ce rapport basé sur des auditions de victimes, l'ampleur des faits. Au total, selon les agents du ministère, une 20aine d'entraîneurs seraient mis en cause, dont 12 pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle. 3 d'entre eux ont déjà été condamnés. Autrement dit, la majorité n'a jamais été inquiétée par la justice. Les inspecteurs notent aussi que chez une partie des entraîneurs du patinage, il existe, je cite, « un problème avec l'alcool ». Au total, le volume de ces affaires est, selon le ministère, sans équivalent au plan international, même s'il faut rappeler qu'aux États-Unis, l'ancien médecin de la Fédération de gymnastique a été accusé d'agression sexuelle par près de 140 sportives. Enfin, ce rapport pointe la responsabilité de la Fédération française de sport de glace avec, je cite, « concentration des pouvoirs, absence de procédure disciplinaire, une forme d'omerta ». Pointé du doigt, Didier Gayaguet, l'ancien président de la fédération, poussé vers la sortie début février par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
La semaine dernière, une ancienne patineuse singapourienne qui s'entraînait en Chine dénonçait sur Instagram des violences psychologiques et physiques. Elle affirme notamment que son entraîneur la frappait en utilisant un couvre-lame de patin en plastique. France O et France 4, c'est bientôt terminé, annonce le ministère de la Culture dans un communiqué cet après-midi qui confirme la fermeture de France O cet été, le 23 août, et de France 4, mais avec un sursis d'un an l'été prochain. Les deux chaînes étaient nées en 2005 au moment du passage à la TNT, mais elles font les frais de leurs faibles audiences, de la transition vers le numérique et de mesures d'économie. Maxime Tellier.
La pandémie et le confinement n'y auront donc quasi rien changé. France O et France 4 vont fermer. Alors d'abord à cause d'audiences confidentielles, 0,3% pour France O, 1,9% pour France 4, la chaîne de la jeunesse qui obtient malgré tout un sursis d'un an car elle a parfaitement rempli sa mission durant le confinement. Ce sont les mots de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture à l'Assemblée la semaine dernière, qui a décidé de maintenir temporairement la chaîne en raison du contexte sanitaire incertain. En cas donc de confinement. France O, en revanche, ne sauve pas sa peau, malgré la tribune dans Libération la semaine dernière et un rassemblement devant le ministère ce week-end. En interne, le syndicat national des journalistes regrette un très mauvais coup pour les Outre-mer. La direction affirme, elle, que l'Outre-mer sera bien représenté sur les autres chaînes du groupe et via le réseau local des chaînes La Première dans les dom-toms. En fermant France O et France 4, le groupe public veut aussi développer ses plateformes Oku et Lumni sur Internet avec des contenus éducatifs et pour les jeunes qui regardent de moins en moins la télévision. Il faut donc s'adapter aux nouveaux usages et cette transition a un coût, écrit le ministère dans son communiqué.
En Biélorussie, le président Loukachenko crie à la déstabilisation et jure de faire échouer toute tentative de révolution. Quelques jours avant de briguer un sixième mandat, il accuse Moscou de mentir et d'avoir envoyé des forces de sécurité privées sur son territoire. À Moscou, Claude Bruyot.
Brandissant un index menaçant à plusieurs reprises durant ses 90 minutes de discours, Loukachenko a tout fait pour se présenter comme le seul capable de préserver la souveraineté de son pays. À l'ordre du jour, de nouveau l'interventionnisme du Kremlin et de nouveau la présence de paramilitaires envoyés par Moscou, mais que les forces biélorusses, selon Loukachenko, parviendraient facilement à démasquer.
Aujourd'hui, nous avons des informations selon lesquelles un autre détachement se trouve au sud du pays. Et pendant que nos paysans travaillent dans les champs, il y a ce détachement qui se trouve là-bas. Il faut partir les chercher dans les forêts.
En Russie, la stratégie de Loukachenko est perçue au mieux comme de la provocation, au pire comme un affront qui obligera tôt ou tard Vladimir Poutine à réagir. Sergueï Fedorov, chercheur à l'Institut européen de l'Académie des sciences à Moscou.
Loukachenko a dépassé les lignes rouges. Tôt ou tard, la Russie doit réagir et établir un nouveau constat de relations entre les deux pays.
Sous pression, Loukachenko l'est aussi à l'intérieur, combattu comme jamais en 26 années de mandat par une nouvelle opposition composée d'un trio féminin qui accumule les soutiens dans la population. Loukachenko n'a pas fait dans la demi-mesure lors de son discours, évoquant, je cite, « de pauvres nanas qui ne comprennent rien à ce qu'elles disent ».
Claude Bruyot à Moscou pour Radio France. L'Argentine a évité le défaut de peu après 8 mois de négociations, de restructuration de la dette. Le gouvernement argentin a finalement trouvé un accord avec les fonds d'investissement américains détenteurs de titres argentins. Un accord signé quelques heures seulement avant le délai prévu. Un accord qui permet à l'Argentine d'économiser près de 30 milliards de dollars et d'éviter une nouvelle crise économique. Les explications de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
L'épée de Damoclès de la dette n'est finalement pas retombée sur les Argentins, mais il en aura fallu de peu. Depuis l'arrivée d'Alberto Fernandez à la présidence en décembre dernier, le gouvernement n'a cessé de négocier avec les fonds d'investissement étrangers pour tenter de restructurer la dette prise par Macri en 2018. Après plusieurs mois de propositions et de pressions, et toujours face au refus des créanciers, le gouvernement a finalement joué sa dernière carte dimanche soir pour arriver à un accord cette nuit. Sans cet accord, l'Argentine aurait été déclarée de nouveau en situation de cessation de paiement, avec tout ce que cela implique d'abord au niveau international, comme la perte de confiance sur les marchés et dans la communauté internationale ou un manque d'investissement étranger à venir. Mais aussi au niveau local avec une dévaluation, une inflation, un éventuel remaniement ministériel et la possibilité de perdre les législatives l'année prochaine. Les journaux argentins et étrangers saluent cet accord historique et, fait plus inédit, des fonctionnaires de la Maison Blanche et du FMI n'ont pas tari d'éloges sur Alberto Fernandez, son ministre de l'économie et sa vice-présidente, Cristina Kirchner. Une bonne nouvelle vécue donc comme une victoire politique et une bouffée d'oxygène économique par le gouvernement. Pour les Argentins, il s'agit d'un soulagement car ils sentent qu'ils sont passés très près d'une nouvelle crise économique et sociale.
Caroline Vic à Buenos Aires. Les inondations dans le nord du Yémen ont fait au moins 17 morts, dont 8 enfants, dans la province de Marib. Les pluies tropicales ont détruit des dizaines de maisons et des centaines de tentes qui accueillaient des déplacés. Le conflit au Yémen oppose depuis 5 ans les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, aux forces du gouvernement appuyées par l'Arabie Saoudite. Plus de 80% de la population du pays dépend d'une forme d'aide humanitaire ou de protection pour sa survie, selon les Nations Unies. On peut encore naufrager sur une île déserte et ne pas devenir fou, dépenaillé et mourir de faim. L'histoire de 3 pêcheurs perdus sur un îlot inhabité de Micronésie dans l'océan Pacifique finit bien. C'est un SOS dessiné sur le sable qui leur a permis d'être repérés et secourus par la marine australienne. Ils seront restés sur l'île pendant 3 jours. Un œil sur le ciel de demain, du beau temps à prévoir quasi partout, sauf en Bretagne, où la grisaille matinale laissera la place à quelques gouttes durant la journée. Il fera au plus bas 9 degrés à Alençon, 10 à Strasbourg, 17 à Montélimar. Les maximales sont en hausse. Les thermomètres atteindront 32 degrés à Montpellier, 30 à Reims, 29 à Biarritz, 31 à Biarritz. 31 à Paris et 21 à Brest. C'est la fin de cette édition préparée avec l'aide de François-Charles Domergue.